Alors ce matin, par la grâce de Dieu, tout d'abord je vous remercie Seigneur de sa présence, et puis votre présence à chacun de vous, c'est bon d'être ensemble, le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs, de demeurer ensemble, et c'est merveilleux de voir la bénédiction de Dieu parmi nous. Merci pour ce choix des cantiques, la présidence, et puis tout ce que le Seigneur a suscité ce matin, c'est dans la joie du Seigneur, et c'est merveilleux. Alors nous allons regarder et continuer ensemble à regarder le livre de Jonas. J'espère que nous allons attraper la Jonasite et grandir dans le Seigneur au travers de cette merveilleuse histoire de Jonas. Alors, je vais prendre mes notes, être préparé. Voilà. Et nous allons lire à partir du verset 14 du chapitre 1, pour nous remettre un petit peu dans le bain du chapitre 1. On ne va pas retourner, on a fait déjà un message d'introduction au livre. On a regardé Jonas chapitre 1, on a mis l'accent sur l'appel de Jonas, son refus évidemment, et quelque part le trouble que Jonas a apporté dans ce bateau qu'il avait embarqué pour fuir loin de la face de l'Éternel. Est-il possible de fuir loin de Dieu? Et alors, qu'est-ce qui se passe avec ces matelots? Ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, tu ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme », parce qu'ils savaient que c'est à cause de lui que la tempête était sur le bateau, « et ne nous charge pas du sang innocent », parce qu'il a demandé qu'il soit jeté par-dessus bord, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Et puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Ils préféraient mourir que d'aller annoncer l'Évangile. C'est fou ça, hein? Et la fureur de la mer s'apaisa. Hein? Jésus a apaisé la tempête, et puis là c'est Dieu qui manifeste que la tempête vient de lui. C'est un jugement parce qu'il y a un homme rebelle dans le bateau. Et la fureur de la mer s'apaisa, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. C'est une façon assez originale de connaître le Seigneur, de rencontrer un homme loin de Dieu, rebelle, et qui apporte le trouble, mais au travers de ce trouble, Dieu qui a réussi quand même, malgré Jonas, à toucher le cœur des matelots par des circonstances extraordinaires. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'éloigner de Dieu, n'est-ce pas ? Pour amener du trouble et voir que dans ce trouble, les gens cherchent Dieu. Ce n'est pas ça qui est la leçon à tirer, mais c'est surtout la leçon de la miséricorde de Dieu qui est en fait le thème du livre de Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Est-ce que c'est possible cela? Et puis on va lire verset 11, et puis on relira évidemment tout le chapitre. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Vous avez déjà été dans un poisson? Aucun d'entre nous? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà été englouti par un poisson? On a peut-être eu peur qu'un poisson nous engloutisse quand on fait un peu la pêche sous-marine. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé à un point dans votre vie où, parce que vous êtes éloigné de Dieu, vous êtes comme dans une prison, enterré vivant, et vous criez à Dieu? Parce que vous réalisez qu'il faut sortir de là. Et Dieu a un plan pour vous. Dieu a une façon de nous sortir de nos désobéissances, de nos éloignements de lui. Et dans l'épreuve la plus extrême, lorsqu'on tourne les yeux vers lui et qu'on prie de tout son cœur, Dieu nous délivre. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Prions, s'il vous plaît. Notre Père Céleste, merci de ta présence au milieu de nous. Merci de ton amour. Dirige ces instants, afin qu'il t'honore, afin qu'il te glorifie. Amen. Alors, Jonas dans le poisson, on va voir ça dans un instant. On a vu ensemble le plan du livre, un rappel rapide que le chapitre 1 pourrait être vu comme la fuite loin de la volonté de Dieu. Chapitre 2, la soumission à la volonté de Dieu, certes un peu contrainte, hein. L'accomplissement de la volonté de Dieu, chapitre 3, et le questionnement de la volonté de Dieu, chapitre 4. On a déjà, j'espère appuyer sur le bon bouton, oui, la fuite loin de la volonté de Dieu. On a vu au chapitre 1 les différents passages, le mandat de Jonas, le sauf qui peut de Jonas, qui est sa fuite, la poursuite de Jonas. On a regardé un peu géographiquement parlant. Jonas, c'est partir à peu près de là, il aurait dû aller à Ninive, à peu près 800 km et Jonas est parti loin, loin, loin. Il désirait faire encore un plus long voyage, d'aller vraisemblablement au sud de l'Espagne, un port là-bas, auquel devait se rendre un bateau. Et puis on a vu ensemble que la ville de Ninive était une grande ville. Il y a des recherches qui ont été faites et on parle même du triangle de Ninive. C'est une agglomération importante avec une mégalopolis, différentes villes ici qui ont été retrouvées par différents archéologues. On a défini cela et puis on a vu que finalement Ninive, quand même, malgré sa repentance, avait été jugée quelques 150 ans plus tard par les Babyloniens. Ici, on va regarder, c'est juste la diapo que nous aurons ce matin, on va regarder dans ce chapitre donc la soumission à la volonté de Dieu, certes contrainte encore une fois, le désespoir de Jonas, la prière de Jonas, la repentance de Jonas, la délivrance de Jonas. Dieu a un plan pour nous, hein, malgré nos désobéissances. Il crée parfois un tel état qu'on a envie désespérément de s'en sortir. On crie vers l'Éternel, on se repent et Dieu nous délivre. C'est le schéma ici que l'on trouve dans le chapitre 2. D'ailleurs, ça fait penser, je n'avais pas pensé à mettre ça dans mes notes, au livre de Juges, n'est-ce pas, où le peuple s'éloigne de Dieu, crie vers Dieu, Dieu suscite un libérateur, symbole et type de Jésus-Christ, un sauveur. Le peuple revient vers Dieu, le peuple est en victoire, et évidemment, il s'endort à nouveau, loin de Dieu, il va vers des idoles, et Dieu le châtie. Dans ce châtiment, à nouveau, le peuple prie, etc. C'est comme un cycle, n'est-ce pas? Espérons que nos vies ne ressemblent pas à tout cela, mais qu'en Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement, nous nous réjouissons et nous marchons de victoire en victoire. Donc, on a vu dans ce chapitre 1, la dernière fois, que Dieu se révèle à des marins, des pêcheurs, malgré la désobéissance du prophète Jonas. N'oublions pas que le but de Dieu reste toujours le même. Lorsqu'il a demandé à Ninive, à Jonas, excusez, va à Ninive. Et Jonas, est-ce que c'est possible de résister à Dieu comme cela? C'est le seul prophète dans la Bible où on voit que non. Jonas va à Ninive, non. Jonas va à Ninive, non, j'irai pas à Ninive. Vous vous rendez compte? Qui sommes-nous parfois pour dire non au Seigneur et d'insister et de s'endurcir et, s'il est possible, de fuir loin de la face de Dieu et de partir à l'autre extrémité? Vous avez bien remarqué sur la carte que Jonas devait aller au nord-est. Il va complètement à l'ouest et le plus loin possible. Et Dieu pourvoit, est-ce qu'il ait l'argent pour prendre un ticket, pour prendre le bateau? Il ait l'argent pour trouver un bateau qui part juste à ce moment-là. Et des fois, on se dit, ah, Dieu ouvre des portes, c'est la volonté de Dieu. Ah, non, ce n'était pas la volonté de Dieu dans son cas, même si Dieu, dans sa miséricorde, a permis tout cela et qu'il a transformé plus tard le mal en bien. En fait, Jonas, par sa désobéissance, entraîne un châtiment dans des conditions adverses. On a vu brièvement encore, on ne peut pas revenir sur tous les points, on a vu la dernière fois que le croyant qui s'éloigne de Dieu va faire face à des circonstances adverses, vraisemblablement croissantes, parce que Dieu dit qu'il châtie ceux qu'il aime. J'aimerais vous inviter à l'instant, parce que hier, vraiment, dans le moment de recueillement et préparant ce message, j'ai tout d'un coup fait un lien, et puis il me semble que c'est vraiment un lien à faire par rapport à ce texte. Ça se trouve en hébreu, et je vous invite à tourner dans vos Bibles, Hébreu chapitre 12 et verset 7. Il y a une leçon déjà à tirer, à souligner dès l'instant, en introduction de ce message. Hébreu chapitre 5, chapitre 12, allons, verset 7 au verset 11. Nous lisons, « Supporter le châtiment, s'adresse à des croyants, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ?» Qu'est-ce qu'on fait face au châtiment de Dieu? Est-ce qu'on le considère comme un châtiment qui vient d'un père ou d'un bourreau? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc ça veut dire que le croyant doit reconnaître parfois que ce qu'il vit peut venir d'un châtiment de la main même de Dieu. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Ici, c'est très pédagogique. Je dois comprendre que je peux être châtié parce que je suis un fils. Si je suis châtié, c'est pour mon bien et je dois accepter d'être châtié. Ça vous arrive d'accepter d'être châtié? Quels sont les enfants bienheureux dans nos foyers qui disent « Papa, t'as bien fait de me châtier ». Et pourtant, on le fait pour leur bien. Et si vous ne le faites pas, la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Et la façon de voir le châtiment de Dieu va dépendre de la solution que Dieu veut apporter à nos vies. La façon avec laquelle il veut agir, c'est de nous apprendre à nous soumettre même au sein du châtiment de Dieu, en attendant peut-être que la main du châtiment s'éloigne. Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, mais ils le trouvaient bon, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Alors, vous pouvez aller au fond, cher... c'est Christelle, je... Il y a un haut-parleur, hein. On a tout prévu ici, on l'appelle l'aquarium d'ailleurs, et ce n'est pas Jonas dans la baleine, hein, rassurez-vous. Merci beaucoup. Il faut vérifier, je ne sais pas où Stéphane, toujours oui, si ça marche le haut-parleur, pour ne pas priver notre sœur du message ce matin. Merci. Alors je reprends verset 9, allons-y. D'ailleurs, pour nous, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, que nous les avons respectés, est-ce qu'on avait le choix lorsque papa ou maman nous donnait une bonne fessée? On a besoin, vous savez, enfant. Eh bien, on les a respectés parce que c'était le but pédagogique. Hein. Il est vrai que tout châtiment, verset 11, Dieu nous châtie pour notre bien tout d'abord, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment, c'est d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. On doit être exercé à recevoir parfois les châtiments de Dieu. Ce n'est pas toujours facile d'accepter ça, non? Je ne sais pas vous comment vous réagissez. J'aimerais vous lire un passage en Ecclésiaste. Vous n'avez pas besoin de tourner dans vos Bibles. Je vais vous le lire après Proverbe. Laissez-moi le temps de chercher. Dans Ecclésiaste 8, verset 8, voilà ce que dit Salomon. Il dit ceci, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. » Jonas avait décidé de mourir pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Eh bien, l'Ecclésiaste, s'il avait lu l'Ecclésiaste attentivement, pourtant il lit beaucoup les psaumes, on va voir que sa prière fait allusion à beaucoup de passages tirés des psaumes. « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. » Nous devons accepter en tant que croyants que nous sommes rien. Un rien que Dieu veut utiliser, mais on n'est rien. Vous avez le souffle de vie aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. Vous avez deux mains qui fonctionnent, c'est une grâce de Dieu. Vous avez des lunettes pour mieux voir, ben c'est même une grâce de Dieu. Vous avez des pieds, ah, des fois on a mal aux pieds, mais qui marchent, vous allez où? C'est une grâce de Dieu. Tout est une grâce de Dieu. Vous êtes en bonne santé, c'est une grâce de Dieu. Vous êtes peut-être souffrant, mais vous avez peut-être la grâce de Dieu de louer Dieu malgré vos souffrances. En fait, tout appartient à Dieu. Je ne peux pas diriger ma vie. Je ne suis pas maître de ma vie. C'est Dieu qui est maître de ma vie. Mes destinées sont entre tes mains. Qu'est-ce que j'aime ce passage? Deux choses que j'aimerais souligner, en introduction toujours, c'est que Jonas est en fait le type de Christ. Et ça, vu qu'on a souligné dans ce verset le fait qu'il était 3 jours et 3 nuits dans le poisson, alors regardons au moins un texte parallèle et tournez dans vos Bibles, en Matthieu, chapitre 12. Matthieu, chapitre 12, et au verset 38. On va voir le signe du prophète Jonas, tel que Jésus l'a enseigné. Matthieu, chapitre 12, verset 38, il est écrit, « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici, plus que Jonas, c'était Jésus lui-même. Alors, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, alors Jésus a confirmé l'histoire de Jonas. Et en ce sens, Jonas devient un type de Jésus-Christ. En fait, il faut savoir... et c'est peut-être quelque chose qu'on ne lit pas ou qu'on n'a pas lu, c'est que Ninive, les gens de Ninive avaient, c'était un peuple très cruel, on l'a vu la dernière fois, mais ils avaient des dieux. Et un des dieux qu'ils adoraient, c'était un dieu poisson, mi-homme et mi-poisson. Je ne sais pas si c'était une sirène ou pas comment on peut dire. Bon, ceci dit, ils adoraient un dieu, moitié homme, moitié poisson. C'est intéressant parce qu'un jour, Jonas s'est présenté. Et je pense qu'il avait quelques marques qu'il y était resté en disant « Je suis celui qui est sorti du poisson ». Je pense que peut-être son message a eu un effet comme ça. On y reviendra. Aussi, j'aimerais dire que Jonas, quelque part, typifie Israël. Jonas refuse le message de Dieu, l'appel de Dieu. Et il faut dire, et c'est parfois le cas de nous, les enfants de l'Église, malheureusement, au travers des siècles, on a refusé le message missionnaire que Dieu pourtant nous a laissé. Refus par Israël du Messie. Jonas a refusé le message de Dieu, le message de miséricorde, de compassion, de repentance accordé à tout un peuple. Et Israël aussi a rejeté ce ministère de compassion donné et envoyé par Jésus-Christ et proclamé par Jésus-Christ. Ensuite, Jonas a été assailli par la tempête, englouti par un poisson. Ça fait penser à Israël désobéissant, déporté, rejeté, et qui ne peut s'assimiler aux nations. Quelque part, les nations vont rejeter un jour Israël, n'est-ce pas? Et c'est déjà arrivé. Les Juifs ont trouvé un refuge en Israël après bien des guerres, des tourments et des épreuves. En fait, Israël, un jour, doit être retourné là où il est né, quelque part, en Israël. C'est intéressant, c'est que quand le poisson vomit Jonas, vous savez où Jonas est aborde, en quelque sorte, enfin, aborde le rivage, malgré lui, expédié par la bouche du poisson, on va dire, à l'endroit même où il était parti. C'est étonnant, ça. Dieu nous ramène souvent aux endroits où on a failli, non? Je me souviens, quand je fais l'équitation, une des choses qu'on m'a appris en passant les obstacles, si un cheval refuse un obstacle, il faut absolument le ramener au même endroit. Vous savez pourquoi? Parce qu'un cheval est assez têtu que s'il refuse une deuxième fois de passer un obstacle, troisième fois, il ne voudra jamais plus sauter. Et parfois, Dieu est obligé de nous ramener à l'endroit où nous avons failli pour nous dire « Vas-y !» Parce que si on reste bloqué, on peut rester bloqué toute sa vie en tant que chrétien. Si on ne passe pas l'obstacle avec Dieu, alors Dieu nous ramène au même endroit jusqu'à ce qu'il ait la victoire. Parce que Dieu n'est pas entêté, c'est nous qui le sommes, mais Dieu est persévérant avec nous. Alors Jonas, c'est vraiment un miracle. Quels sont ceux qui croient que Jonas a vraiment été englouti par un poisson? Eh bien, vous faites bien de lever la main. Hein? Je n'avais pas pensé vous poser cette question ce matin, en fait. Oui, Jonas a été englouti. C'est formidable, cela. Ça s'appelle un miracle. Alors, j'ai trouvé dans un commentaire, alors c'est extraordinaire, parce que le Seigneur vient à notre aide, et des fois, quand on lit des choses, il y a dans ce commentaire ici, je vais retrouver la page, page 19, il y a dans ce commentaire ici plusieurs cas d'hommes qui ont été retrouvés dans un poisson. Je vais vous donner deux cas, ça vous va? Alors je le traduis, j'espère ne pas faire trop d'erreurs. En fait, il y a au moins deux monstres qui auraient pu facilement avaler Jonas. Alors ils sont, je vous passe les noms, je vous donne les noms, mais on ne va pas les retenir, Baleanoptera musculus, et puis le Rhinodon typicus, ou le requin baleine. Alors aucun de ces monstres, en fait, qui vit dans les profondeurs, n'a de dents. Ils mangent d'une certaine façon, assez intéressante, avec des énormes bouches. J'en ai vu d'ailleurs des baleines à Saguenay, à Tadoussac, à l'endroit où le Saguenay rejoint le fleuve Saint-Laurent. Et là, il y a des baleines. C'est énorme, les baleines, hein, je peux vous dire. Bon, mais il y a encore des baleines encore plus grandes. Alors, elles ouvrent leur énorme bouche et puis elles plongent dans l'eau. Et ce qu'elles font, elles ouvrent la bouche. Elles vont rapidement au fond de l'eau. En ouvrant la bouche, elles ingurgitent des tonnes d'eau. Puis elles ressortent, elles soufflent. Elles ressortent toute l'eau et tout ce qui reste est bon à manger. Hein? C'est comme ça que procèdent ces genres de baleines. Alors, il y a une baleine qui a mesuré, qu'on a retrouvé, qui mesurait 33 mètres, parce que c'est en pied, donc je dois le transcrire, et qui a été capturé au Cap Côte en 1933. Alors, sa bouche, je ne sais pas si on peut appeler bouche pour une baleine, enfin pour ce poisson, avait 4 mètres de largeur, au point qu'elle aurait pu facilement avaler un cheval. C'est ce qui est écrit ici. Alors, ces baleines ont en fait 6 compartiments dans leur estomac, de quoi mettre plusieurs aliments pour quelque temps, et dans laquelle on pourrait mettre une petite colonie d'hommes dans une de ces poches, parce qu'il y a une poche aussi qui est remplie d'air, qui est le prolongement du sinus nasal, qui en fait une poche d'air dans laquelle on peut tenir et qui mesure 7 pieds, donc à peu près 2,50 m, on va dire, sur 2,50 m et 5 m de long. On peut mettre quelques membres de l'église qui sont pas sages, vous savez. Voilà. Alors, on comprend qu'effectivement, Jonas ait pu avoir mal à la tête en sortant de la gueule du poisson. Mais bon, aussi sérieusement, un docteur, Harry Rimmer, président du bureau de sciences de recherche à Los Angeles, a écrit un autre cas. Il en sait 5-6, donc je ne peux pas vous tous les lire. Il dit ceci, il a raconté ça dans une revue sérieuse, où il semble qu'il y a un marin anglais, pauvre anglais, qui a été avalé par un gigantesque rhinodon, donc c'est encore un de ces poissons énormes là, dans la Manche. Attention, si vous nagez à la Manche, là, vous arrivez. Finalement, brièvement, il raconte dans son récit que le marin a voulu harponner ce gigantesque requin. En fait, c'était un requin. Et puis, il est tombé par-dessus bord. Vous savez ? Et puis, ben, voilà, il a été pris par le requin et puis avalé. 48 heures plus tard que l'accident est arrivé, le requin a été repéré, puis il a été tué. Et le requin a été ouvert par les marins, et quelles ne furent pas leurs surprises de voir un homme dans l'inconscience, mais toujours en vie, dans le ventre du poisson. Alors ils se sont précipités à l'hôpital, ils l'ont emmené là, et il a été soigné parce qu'il souffrait de différents chocs, évidemment. Et puis quelques heures plus tard, ben, il a été ramené et déclaré en pleine et parfaite bonne forme. Si vous dites ça à votre professeur de médecine, peut-être qu'il va trouver ça un peu difficile, mais bon. Et puis la conclusion de ce récit, c'est dit que l'homme était en exhibition au musée de Londres et qu'on pouvait être admis à pouvoir le regarder en payant un shilling. Et on l'appelait, en publicité, c'était écrit, allez voir le Jonas du XXe siècle. En 1926, ce docteur Rimmer a rencontré cet homme-là et a écrit au sujet de son apparence physique était vraiment anormale. Son corps, ben le pauvre, il n'avait plus, était complètement dépourvu de cheveux. Il avait des grosses taches de couleur brunâtre et jaunâtre qui couvraient toute sa peau. Donc voilà, c'est un récit, je pensais vous donner ça, certains avec un peu d'humour, mais Dieu peut ouvrir la bouche d'un poisson aussi énorme, parce que c'est énorme ces poissons, hein. C'est vraiment énorme, et puis engloutir un homme, c'est déjà arrivé. Voilà, on pense que c'est un cétacé. Il y a une plaisanterie qui dit cétacé, je me cache à l'eau, dit la baleine. Alors je ne sais pas si c'était une baleine, un cachalot ou un cétacé, on dit que c'était un requin. Bon, après ces quelques points donnés avec humour, tout simplement, Dieu a fait un miracle. Ce même Dieu qui a lancé les 10 plaies en Égypte, celui qui a ouvert la mer Rouge, qui plaça toute sa gloire sur le tabernacle, c'est ce Dieu qui est capable de faire de tels miracles. Il y a ce grand poisson qui est là juste par hasard. Tiens, il est plongé à l'eau, il y en a un qui se balade, et puis c'est le poisson qui l'engloutit. Le poisson l'aval, à mon avis, c'est un deuxième miracle, ça. Il y a un troisième miracle, c'est que Jonas reste vivant au sein du poisson. Le quatrième miracle, c'est que le poisson vomit Jonas. Et la Bible dit que Dieu a parlé au poisson. Est-ce que vous croyez que Dieu parle aux êtres animaux? Mais oui, Dieu est tout puissant, il a créé les cieux et la terre. L'Ancien Testament nous dit même qu'il parle aux étoiles. Il peut parler aux animaux et dire, voilà, fais ci, fais ça. Où a-t-il prié Jonas dans le récit ici? Lisons la prière de Jonas. On y va? Allez, on lit verset 3, verset 2 jusqu'au verset 10. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. C'est le premier mais qu'on trouve ici dans le texte. Il y en a un deuxième. Soyez attentifs pour le trouver. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, pourquoi il dit « mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse » Parce qu'il a écrit la prière après qu'il a été délivré. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. » Quelle belle confession d'une confiance en Dieu, de l'exaucement de Dieu. Quelle belle confession. « Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Il a prié au sein du poisson. Certains pensent même qu'il est mort, de même que Jésus est mort et a été englouti par la terre 3 jours et 3 nuits. Mais bon, je penserais qu'il était vivant. Il était vivant. Puis dans cette prière qu'il raconte, après évidemment son expérience, il cite énormément de versets bibliques. Vous savez, nous devons être prudents. Parce que cet homme s'est éloigné de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas les Écritures. En fait, toutes ces situations de prière sont tellement en référence avec des psaumes. Il connaissait les psaumes par cœur. Il était imbibé de la parole de Dieu. Mais parce qu'il a obéi, il a désobéi une fois et qu'il s'est éloigné une fois de Dieu, alors qu'il était prophète de Dieu, il a connu vraiment du trouble et créé du trouble autour de lui et il s'est rebellé vraiment contre Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire à l'instant et vous allez devoir garder une page, un doigt en quelque sorte dans les psaumes, parce que je vais faire des parallèles avec les psaumes puisque c'est Jonas qui le fait dans ses prières. Est-ce qu'on peut regarder tout d'abord le psaume 18 et versets 5 à 7. Psaume 18, versets 5 à 7. Alors, j'ai envie qu'on lise à partir du verset 2 parce que c'est tellement beau. Ce psaume de David, je ne sais pas vous, mais c'est un des psaumes certainement qui nous touche profondément. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve mon abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Lorsqu'il dit « les liens du séjour des morts m'avaient enlacé », il se voyait peut-être partir, mourir ou en danger de mort. Donc c'est une métaphore que le psalmiste emploie en parlant du séjour des morts, de l'abîme dans lequel il va parce qu'il est proche de mourir. C'est comme en fait ici Jonas, lorsqu'il parle de l'abîme, lorsqu'il parle du séjour des morts, c'est son tombeau, c'est sa tombe, c'est le ventre du poisson, c'est le fait qu'il est comme enterré vivant. Et aussi psaume 88, si vous tournez au psaume 88 et verset 2 jusqu'au verset 8, il est écrit Éternel, 88 verset 2. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent à la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir, qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Donc on voit dans ce psaume ici, ces deux passages, le parallèle avec en fait, ce que vit ici Jonas. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Vous avez parfois, certainement, traversé des détresses. Peut-être êtes-vous dans un moment de détresse. Qu'est-ce que vous faites? Notre paresse naturelle peut nous dire, je prierai plus tard. Ce serait dangereux. Spurgeon disait, si vous avez envie de prier, priez, parce que ce serait un péché de ne pas prier. Mais si vous n'avez pas envie de prier, Priez quand même, parce que c'est dangereux de rester dans un tel état. C'est la prière qui fait bouger les choses. Et c'est dans les moments difficiles que nous devons d'autant plus l'exercer et crier vers Dieu, invoquer notre Dieu. Et Jonas a invoqué Dieu de tout son cœur. En fait, si vous lisez avec moi au verset 4, il dit « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer ». Est-ce qu'il dit « Oh, ces matelots qui m'ont jeté par-dessus bord ». En fait, lui a voulu être jeté par-dessus bord. Il m'a dit « Tu m'as jeté ». Pourquoi ? Parce qu'il reconnaît ici la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui l'a châtié. C'est la main de Dieu qui l'a envoyé par-dessus bord et c'est la main de Dieu qui l'a envoyé au fond de l'océan et au sein du ventre d'un poisson. C'est vraiment une situation désespérée. Vous imaginez dans cette situation ? Est-ce que vous connaissez une situation plus désespérée ? C'est assez... On n'aime pas les situations imprévues, n'est-ce pas ? Se retrouver au sein d'un poisson, c'est assez imprévu, non ? Et peut-être des fois, Dieu permet dans nos vies des situations vraiment imprévues où on dirait qu'on s'enfonce, tout autour de nous est prison. Même nos prières, parfois, on dirait qu'elles n'atteignent plus le ciel. Il y a comme un nuage de plomb dessus nous. Mais c'est quand même le moment de prier. C'est incroyable ce que Dieu est fidèle, mes amis. Ce que Dieu est fidèle lorsqu'il entend un cœur qui crie vers lui. Dieu est souverain, Dieu est éternel, Dieu est tout-puissant. Et il entend le cri de ses enfants. Est-ce que nous prions ? Moi, des fois, je suis un peu découragé de voir qu'on est si peu à la réunion de prière. Et je me dis, mais est-ce que nous, les enfants de Dieu de cette Église, on prie ? On ne peut pas ne pas vivre sans la prière, frères et sœurs. C'est vrai que là, ce sont des moments de détresse, quand ça va, tout va mal, mais on s'écrie à Dieu. Je me souviens une fois, vous savez, pour conduire à Québec, il faut être assez qualifié. Après quelques hivers, que vous êtes tombé dans les fossés, que les gens sont venus vous retirer de 2 mètres de neige. Une fois, ma femme et moi, on faisait une visite pastorale, et puis on ne voyait pas bien, on ne savait pas trop où on en était. J'ai dit, on va regarder la carte. Et on se met juste sur le côté, ça avait l'air tout blanc, et je me mets sur le côté, et puis d'un coup, je vois Louis, ça avait la carte. On était juste dans le fossé. Alors, désespérément, on a fait appel à un remorquage. Mais un jour, alors que je... Parce que l'hiver, c'est très rude là-bas, puis les premières neiges, c'est très glissant, surtout en plus quand il gèle, c'est terrible. Et un jour, je sortais de la rocade, les premières neiges, on est moins attentif. Et tout d'un coup, j'ai vu que pour aller prendre la sortie que je devais prendre, j'allais trop vite, mais c'était trop tard, freiner, c'était trop tard. Et là, je savais qu'en bas, là, il y avait un grand creux. Et j'ai crié à Dieu, mais vraiment, je pense que j'ai crié... ça a pris une fraction de seconde, j'ai crié, « Seigneur !» Et la voiture a cogné un rebord de parapet et m'a remis sur le chemin. Et après, j'ai dit, ouais, j'aurais pu faire ça. Puis j'ai une femme, 6 enfants. Hein. Alors, dans la détresse, c'est incroyable le cri qu'on peut faire en Dieu. Dieu ne nous abandonne jamais. Vous êtes dans la détresse, criez à Dieu. J'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Quelle assurance! Du sein du séjour des morts, là où on pense qu'il n'y a plus de vie, là où on est désespéré, on n'a plus de force, j'ai crié et tu as entendu ma voix. C'est une relation d'amour. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'épreuve, Jonas se souvient de son Dieu. Il a eu confiance en Dieu, il a eu tout un ministère de prophètes dans le passé. Et là, dans la détresse, il a confiance en son Dieu. Il ne peut pas oublier qui est Dieu. Un véritable enfant de Dieu, qui est enfant de Dieu, il n'oublie pas son Dieu. Il ne peut pas oublier son Dieu. Il est attaché à Dieu, il est régénéré. Il est vraiment attaché à Dieu. Bon, j'ai plusieurs passages parallèles, mais on va aller un petit peu plus loin. Ce que j'aime beaucoup, au verset 5, « Je suis chassé loin de ton regard. » Alors, c'est lui qui dit « Je suis chassé loin de toi. » Mais qu'est-ce qu'a fait Jonas juste avant ? C'est lui qui est parti loin du regard de Dieu. Hein ? Est-ce qu'on peut fuir loin de Dieu ? En fait, on ne peut jamais fuir Dieu, mais on peut s'éloigner de Dieu. Mais maintenant, il dit, Seigneur, je suis chassé loin de toi. Mais il subit la conséquence de son péché. Et des fois, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, il faut reconnaître que les conséquences de notre éloignement, c'est de dire, Seigneur, je suis loin de toi. Je suis chassé comme rejeté. J'ai perdu ma communion avec toi. Mais c'est ma faute, ce n'est pas ta faute. C'est moi qui suis responsable. Mais l'espérance vient, et dans le cas, celui qui commence à se repentir, il dit, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Et pour un juif, voir le Saint-Temple, c'était retrouver la communion avec Dieu. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Je crois que dans la détresse la plus profonde, là où nous avons peut-être désobéi, Dieu a toujours un espoir qui nous fait vivre, parce qu'on sait, on connaît l'amour de Dieu. D'ailleurs, Jonas ne voulait pas aller à Ninive parce qu'il savait que Dieu serait capable de pardonner aux gens de Ninive. Il connaissait la miséricorde de Dieu. Il ne voulait pas que ces gens de Ninive soient pardonnés parce qu'ils étaient cruels. Mais lui-même est en train d'être au bénéfice de la miséricorde de Dieu. Il sait que Dieu est amour, il sait que Dieu peut lui pardonner. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la ville, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Il y a vraiment une expression de joie extraordinaire lorsque le croyant, par exemple, lorsque la personne pour la première fois accepte Jésus-Christ et est libérée de la puissance du péché. Mais aussi une joie profonde lorsque le croyant, dans sa prière et marche avec Dieu, est délivré d'un péché, d'une mauvaise habitude, de quelque chose, conséquence à désobéissance, mais tu m'as fait remonter vivant de la force éternelle, mon Dieu. Dieu est vie, et on peut toujours retrouver la vie lorsqu'on est plongé, malheureusement, dans la détresse à cause de notre péché. On peut espérer que Dieu nous redonne la vie, parce que Dieu est amour, et quand on est enfant de Dieu, la Bible dit, nul ne nous ravira de sa main. J'aimerais dire ceci aussi, qu'il y a des gens qui disent, oh, la vie, ici sur terre, c'est un enfer. C'est un enfer, la vie est un enfer. Eh bien, j'aimerais dire, si quelqu'un ne connaît pas encore le Seigneur, mais tu m'as fait remonter vivant de la force éternelle, mon Dieu. Et la Bible dit que Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Là où il y a la mort à cause du péché, la séparation avec Dieu, là où il y a l'esclavage du péché, l'esclavage de mauvaises habitudes, de mauvaises pensées, l'esclavage qui détruit. Jésus peut apporter la vie et transformer la mort en vie par sa puissance pour nous séparer du péché. Être saint, c'est être séparé du péché pour Dieu. C'est d'être mis à part pour Dieu. Il nous a rendus vivants avec Christ. Je ne sais pas vous ce matin, mais quand on chante des cantiques, quand on est à l'église, moi des fois j'aimerais que tout le monde explose de joie et de vie. Parce que si vous êtes sauvé, vous êtes en route pour le ciel, votre nom est inscrit dans le livre de la vie et que vous avez échappé à l'enfer, si vous l'avez vraiment compris, lorsqu'il s'agit de louer Dieu, vous ne pouvez que le louer, le rendre grâce pour le salut éternel qu'il vous a donné. Comment pouvons-nous nous taire face à la grâce et la miséricorde de Dieu? Est-ce que votre cœur bondit de joie pour pouvoir dire, tu m'as fait remonter vivant, nous étions en route pour l'enfer, tu m'as fait remonter vivant la fosse, l'éternel, mon Dieu. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui, Dieu est mon Dieu, je suis sauvé, je suis gracié, je suis pardonné, je suis vivant en lui. Est-ce que vous pouvez vraiment reconnaître que Christ est votre sauveur? Alors louez le Seigneur, parce que vous êtes en route pour le ciel. Et là, vous pouvez dire merci Seigneur, vous pouvez l'adorer de tout votre cœur. Passez du temps, même aujourd'hui, à l'adorer. Mettez-vous à genoux, remerciez Dieu pour sa croix. On a mémoré la crucifixion de Jésus ce matin en prenant la table du Seigneur. Mais mettez-vous à genoux, mettons-nous à genoux, glorifions Dieu. Nous étions dans une telle fosse, les eaux de ce monde nous envahissaient, les ténèbres nous envahissaient, l'ennemi nous rendait esclaves et nous avons connu Dieu. Nous nous sommes adressés à lui. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. C'est le croyant rétrograde, loin de Dieu, et qui se souvient tout d'un coup, comme l'enfant prodigue. Il avait tout dilapidé, les biens de son père, puis tout d'un coup, il se souvient de la maison de son père. Il était dans un endroit où il était tellement misérable. Ah, il mangeait des carouges, et puis il dit, mais dans la maison de mon père, je vais revenir, j'ai tout perdu, mais je reviens, parce qu'il s'est souvenu de l'amour du Père. Et le croyant rétrograde, il se souvient tout d'un coup de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles et de la miséricorde, ils s'attachent de tout son cœur à Dieu, donc il n'y a pas de place pour l'idolâtrie. Parfois, le chrétien rétrograde tombe dans l'idolâtrie, il met à la place de Dieu quelque chose ou même quelqu'un à la première place, à la place de Dieu. Mais là, il met de côté tout ce qui est idole parce qu'il s'attache à Dieu et il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Ce qui est bizarre dans cette expression de prière, c'est qu'il reprend exactement ce que les matelots ont fait. Verset 16, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Certainement, si vous avez été appelé à servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre, ben Dieu, vous vous êtes engagé. Et des fois, il y a des engagements, ce n'est pas tout à fait le mot vœu ici, mais il y a quand même des engagements que les chrétiens proclament. Oui, Seigneur, je ferai ça. Oui, je donnerai ça. Oui, je ferai ça. Oui, j'irai là. Et puis, le chrétien oublie et finalement, il n'est pas consistant dans sa consécration. Mais croyez-vous pas que Dieu sait ? Croyez-vous pas que Dieu sonde nos cœurs ? Et lorsqu'on se dit engagé devant Dieu, est-ce que ne croyez pas qu'il sonde nos cœurs jusqu'à quel point on est vraiment engagé ? Ou est-ce qu'on méprise notre engagement et donc Dieu ? Ou est-ce que nous sommes engagés pour Dieu ? Si vous êtes engagé pour Dieu, c'est très sérieux. Mais vous vous êtes engagé, on s'engage volontairement parce que lui s'est déjà engagé. Il a envoyé son Fils unique, il est descendu de la terre, il a envoyé son Fils mourir sur la croix, afin que moi je puisse être sauvé. Dieu s'est engagé pour vous. Christ s'est engagé pour vous. Et si vous vous engagez pour Dieu, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. C'est trop sérieux devant Dieu. On n'a qu'une vie à vivre sur terre. Pour qui, pourquoi allons-nous la vivre ? J'aime beaucoup ce passage qui dit « Je me suis souvenu ». Je pense que dans nos vies, on a tellement besoin de se souvenir. Parfois, c'est bien, en tant que jeune croyant, j'ai fait ça pendant longtemps, d'écrire toutes les choses que Dieu faisait dans ma vie. Et dans les moments difficiles où on traverse un tunnel, où il semble qu'il n'y a pas d'aboutissement, de fond, on relit les bonnes choses que Dieu a faites dans nos vies et on se réjouit par ce carnet de vie. Alors, engageons-nous devant le Seigneur. Remercions le Seigneur pour le fait qu'il est celui qui nous libère. Il y a peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui n'est pas encore sauvé, qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas devenu son libérateur. La Bible dit et confirme ici, le salut vient de l'Éternel. Le salut, synonyme de délivrance ici, dans le mot original, la délivrance vient de l'Éternel. Jonas dit, mais la délivrance vient de l'Éternel. Là où je suis, il n'y a que Dieu qui puisse me délivrer. Vous savez, c'est parfois bon signe. Quand on arrive à un point dans sa vie où on crie à Dieu et on sait que c'est lui seul qui peut nous délivrer. Parce que là, on commence vraiment à croire que lui va le faire. Tant qu'on s'agite et on bouge et on fait mille et une choses, je vais y arriver. On s'agite, mais comme dans des sables mouvants, on s'enfonce. Tandis que Christ, lui, peut nous délivrer de toutes sortes de situations. Alors, l'Éternel parla au poisson. Moi, j'aime ça, hein. Je pense que Dieu avait parlé au cœur de Jonas, mais il parle aussi au poisson. C'est merveilleux, hein ? Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous parler ? Parce que s'il parle à un poisson, il peut vous parler aussi, hein ? Il dit, Dieu parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Demi-tour, droite, au même endroit où Jonas est parti, on retourne au point de départ, Joppé, exactement à l'endroit où Jonas avait dit, non, je n'irai pas à Ninive. Ah, tu n'iras pas à Ninive ? On va voir. Il dit, ah bon, monte sur le bateau. Ok, je te laisse faire, monte sur le bateau. Il agite un peu le bateau, les matelots le jettent. L'autre, il dit, jetez-moi par-dessus bord. Il commence à se noyer dans l'eau, puis pof, il dit, ça y est, j'irai pas à Ninive. Pof, il y a un poisson qui arrive, qui le prend. Et là, au sein de ce poisson, il comprend que c'est un châtiment de Dieu. Et il prie Dieu. Et Dieu le délivre. Ça nous ressemble tellement, n'est-ce pas ? Vous ne trouvez pas ? Conclusion, si vous me permettez, quelques remarques, on termine avec ça. Premièrement, Dieu est maître de la nature. Est-ce qu'on le comprend que Dieu est souverain sur tout, même notre nature, hein? Heureusement d'ailleurs. Dieu a le pouvoir de transformer le mal en bien dans sa souveraineté. La désobéissance de Jonas n'arrête pas le dessein de Dieu, c'est de sauver Ninive et exercer sa miséricorde. Ah, il a été avalé dans le poisson pendant 3 jours et 3 nuits comme Christ au sein de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Et puis j'ai marqué aussi, n'attendons pas peut-être d'être à l'extrême de l'adversité pour invoquer Dieu. L'entêtement de Jonas l'a amené à une situation extrême. Mais est-ce que parfois nous tentons pas Dieu d'arriver à des situations extrêmes pour qu'il agisse Attention à cela, on ne peut pas jouer avec Dieu. Et puis dire quand même que Dieu nous exauce dans les jours de la détresse. Que faisons-nous, frères et sœurs, face au châtiment de Dieu lorsque nous désobéissons ? Nous pouvons mépriser le châtiment de Dieu. Je pense que Jonas, il a mis un peu de temps à comprendre qu'au sein du poisson, c'était vraiment un châtiment de Dieu. Est-ce que nous abandonnons, nous disons finalement, bon, c'est trop dur, j'abandonne, ou est-ce que nous endurons le châtiment de Dieu? On a envie que Dieu change les circonstances souvent. Vous n'avez pas remarqué quand ça va mal? Si Dieu pouvait changer une ou deux choses là, ça irait tellement bien dans ma vie. Et puis Dieu ne change pas parfois des choses parce que c'est au travers de ces épreuves, de ces choses, qu'il a un dessein à accomplir à sa gloire. Nous pouvons nous rebeller à ça et rallonger peut-être l'adversité. Nous pouvons confesser notre péché parce qu'il y a des adversités qui viennent à cause de notre désobéissance et nous pouvons dire, Seigneur, oui, j'accepte ton châtiment, je l'endure, je confesse mon péché, je cesse de me rebeller, je me soumets à toi. Jonas s'est rebellé contre la main de Dieu, il a mené du trouble, mais il a appris à se soumettre. On a vu ce matin la soumission à la volonté de Dieu. Dieu reste souverain. Que faisons-nous face à notre vie, dans notre vie, dans les moments difficiles? Est-ce qu'on reconnaît la main de Dieu pour notre bien? Et est-ce qu'on l'invoque de tout notre cœur? Sachant que Dieu est plein de miséricorde pour quiconque l'invoque. Invoquons le nom du Seigneur. Quel privilège. Juste pour terminer cela, je ne voudrais pas que ça nous échappe ce matin. Nous avons un grand Dieu. Nous pouvons vraiment l'invoquer. Nous pouvons vraiment le prier. Il écoute, il exauce. Parce que Dieu est vraiment un Dieu de toute miséricorde. Pensons à cela dans nos vies. Au moment les plus difficiles, n'oublions pas, je me suis souvenu. L'Éternel est mon Dieu. Le salut vient de l'Éternel. Il n'y a aucune situation où Dieu ne puisse intervenir. N'oublions jamais cela dans nos vies. Prions, s'il vous plaît. Notre Père, merci de ta bonté de nous avoir rappelé tout cela ce matin. Nous sommes parfois des enfants si désobéissants, même peut-être parfois insoucieux, inconscients. Tu places devant nous des défis et parfois nous fuyons par lâcheté, par manque de foi, par manque d'amour. Donne-nous, Seigneur, de nous engager pour toi, d'être soumis à ta volonté de la discerner, mais d'être persévérant et de croire en un Dieu de l'impossible. Seigneur, je te remercie ce matin d'avoir montré tellement de miséricorde envers Jonas. Et si tu as montré tellement de bonté, de miséricorde envers lui, certainement ce même Dieu que tu es pour nous exerce sa bonté et sa miséricorde. Merci Seigneur. Amen.